Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous et voici les titres de votre journal. Avec cette polémique sur Pétain qui s'invite sur le périple d'Emmanuel Macron, le président s'attire les foudres de l'opposition et du CRIF à propos de la cérémonie d'hommage programmée samedi aux Invalides. Autre dossier qui parasite toujours le déplacement du chef de l'État sur les traces de la Grande Guerre, celui des carburants. Les Gilets jaunes qui prévoient de bloquer la France le 17 novembre ont reçu aujourd'hui le soutien d'un syndicat de policiers. À Marseille, il est trop tôt pour déterminer les causes exactes de l'effondrement de deux immeubles. Lundi matin en centre-ville, un sixième corps a été retrouvé dans les décombres. Donald Trump change de ton maintenant que les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des représentants. Il propose de travailler avec eux. Un tourbillon d'émotions pour Nicolas Mathieu, lauréat du prix Goncourt pour son livre « Leurs enfants après eux ». C'est un immense vertige, dit-il, on l'entendra. Et puis le foot, les joueurs lyonnais affrontent en ce moment les Allemands d'Offenheim en Ligue des Champions. Sous vos yeux, Pascal Auclair, avec une très très prometteuse première mi-temps pour les Lyonnais.
Ah oui. Oui, effectivement, les affaires se présentent bien pour l'Olympique Lyonnais qui mène 2-0 avec début de Fekir à la 19e et Ndombele à la 28e minute.
Et on vous retrouve Pascal Auclair dans le courant de ce journal pour faire un point sur cette rencontre, un point un peu plus complet, sans oublier bien sûr votre rendez-vous tous les soirs, 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval.
Europe 1.
Le périple d'Emmanuel Macron sur les traces de la Grande Guerre a donc été perturbé aujourd'hui par une nouvelle controverse. L'hommage au maréchal de la Grande Guerre samedi aux Invalides à Paris. Alors ce qui fait polémique, c'est le fait que le maréchal Pétain figure parmi ces maréchaux dont la mémoire sera honorée. Le chef de l'État s'était déjà justifié une première fois ce matin. Et cet après-midi, une nouvelle fois, Emmanuel Macron a expliqué les raisons qui l'ont conduit à associer le maréchal Pétain à cet hommage.
J'ai tenu des propos forts quand j'ai été au moment du Veldiv. Je l'ai dit, moi je regarde toute notre histoire en face. Maréchal Pétain, quand il a dirigé la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été complice de crimes profonds qui ont été maintenant reconnus. Et la responsabilité de l'État français a été reconnue. Je l'ai dit, j'ai été clair sur ce point. Mais Pétain, avant, a été un maréchal de la Grande Guerre. Et donc, je ne pardonne en rien... Mais je ne gomme rien de notre histoire. Et donc, il y a eu des hauts faits militaires, il y a eu une forfaiture dans la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes aux côtés de tous ceux qui ont été déportés, victimes de la Deuxième Guerre mondiale, et nous le serons toujours. Et je me battrai toujours contre l'antisémitisme. Mais il nous faut, quand la question est posée, regarder aussi l'histoire en face et savoir reconnaître ce qui a été... la Première Guerre mondiale.
Emmanuel Macron au micro européen de Jean-Rémy Baudot. Alors cette décision d'honorer le maréchal Pétain fait l'objet depuis ce matin de nombreuses critiques, notamment de la part de la classe politique. Plusieurs élus, surtout à gauche, se disent choqués. Benoît Hamon notamment estime que rien ne justifie une telle honte, tandis que Jean-Luc Mélenchon interpelle sur Twitter le président de la République. Pétain est un traître et un antisémite. Ses crimes et sa trahison sont imprescriptibles. Macron, cette fois-ci, c'est trop. L'histoire de France n'est pas votre jouet. Réaction très vive également de la part du Conseil représentatif des institutions juives de France. Son président, Francis Khalifa, était l'invité d'Europe 1.
On ne peut pas retenir de Pétain le soldat qu'il a été et occulter complètement l'homme qui a été responsable de la déportation des Juifs de France, dont on connaît les conséquences. Au nom du peuple français, il a été frappé d'indignité nationale lors de son procès en 1945. L'indignité nationale, ça a un sens. Et ça a des conséquences. Et une des conséquences, c'est qu'il perd son rang dans les forces armées. Alors je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de l'honorer aux côtés d'autres maréchaux de France. Je ne pense pas que l'on puisse aujourd'hui honorer Pétain. Non, pas lorsqu'on l'on connaît l'histoire. C'est presque une forme de réhabilitation. Ça me paraît inacceptable.
Francis Khalifa, le président du CRIF, il était au micro européen de Marguerite Lefebvre. L'autre polémique qui poursuit Emmanuel Macron lors de ce périple mémoriel, c'est toujours la hausse des prix du carburant. Le président a encore été interpellé aujourd'hui sur le sujet. Vous savez qu'une journée d'action est prévue pour le 17 novembre. Les Gilets jaunes qui ont reçu aujourd'hui le soutien du syndicat de police Unité SGP, qui ce jour-là feront la grève des PV. Leur secrétaire général Yves Lefebvre s'en explique au micro Europe 1 d'Alain Accot.
Pourquoi ? Parce que derrière chaque flic, il y a un citoyen, une citoyenne, tout simplement, et que le flic est soumis à des horaires décalés qui lui imposent obligatoirement de venir au boulot, aux voitures. Donc la hausse des carburants, les taxes diverses et variées, impactent bien évidemment le pouvoir d'achat du flic. Zéro PV, alors entendons-nous bien, hein, zéro PV. Les crimes, les délits devront être bien évidemment poursuivis, les auteurs interpellés, les graves infractions de code de la route, mettant en péril l'intégrité physique de nos concitoyens, devront bien évidemment être sanctionnés. Mais à côté de ça, ce que l'on appelle communément le ventre mou des infractions au code de la route devront faire pour nous l'objet de zéro constatation.
Yves Lefebvre du syndicat de police SGP, il était au micro Europe 1 d'Alain Accot. Il est 22h05, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et à Marseille, il est trop tôt encore pour déterminer les causes de l'effondrement de deux immeubles en centre-ville lundi matin. Le dernier bilan, encore provisoire, est de 6 victimes. 2 nouveaux corps ont été retrouvés aujourd'hui. On apprend à l'instant que les recherches sont suspendues pour détruire 2 immeubles voisins qui menacent peut-être eux aussi de s'effondrer. En tout cas, le procureur de Marseille a tenu ce soir une conférence de presse, Nathalie Chevance.
Concernant l'enquête, le procureur de Marseille nous a appris ce soir qu'une locataire du 65 rue d'Aubagne a appelé les pompiers dans la nuit précédant l'effondrement pour leur signaler une grosse fissure dans son appartement qui était en train de s'élargir. Mais finalement, cette femme a recontacté les pompiers pour leur indiquer que ce n'était pas la peine qu'ils se déplacent. Le matin du drame, 2 autres locataires signalaient eux qu'ils n'arrivaient plus à fermer et à ouvrir la porte de leur appartement. Bref, autant d'éléments qui confirment que l'immeuble datant de la fin du 18e était bel et bien en train de bouger. Un bâtiment qui est une copropriété privée, frappé d'un arrêté de péril imminent depuis le 19 octobre dernier à cause de fissures inquiétantes relevées dans un logement du premier étage ainsi que dans les parties communes. Un expert avait été mandaté. Les locataires évacués, des travaux effectués, ils ne dureront que quelques heures. L'enquête va donc devoir établir si toutes les réparations ont été correctement effectuées. Pour l'instant, les auditions se poursuivent. Pas de garde à vue dans l'immédiat. Il est encore trop tôt pour établir la cause de ces effondrements en série.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Dans tout le quartier, c'est l'incompréhension, bien sûr, et surtout la colère, d'autant qu'on a découvert que ce drame aurait très certainement pu être évité. Léa habite le quartier. Elle vit, elle aussi, rue d'Aubagne, non loin des immeubles qui se sont effondrés, et elle a très peur.
On a du mal à dormir, on a peur que notre bâtiment s'écroule, on vit un calvaire. On a des fissures au plafond, au mur, le sol au carrelage. Ils vous répondent, on ne dépense pas cet argent pour ce bâtiment.
C'est ce que vous dit le syndic ?
Oui.
Combien vous payez de loyer par mois ?
450 euros. Une pièce, une seule pièce. On en a marre. Tous les bâtiments sont fissurés, dont le nôtre, on en a marre. On n'a pas envie de mourir dans ça. Ça me stresse.
Vous vivez avec la peur ?
Depuis ce drame, oui. Enfin, je pensais pas qu'un tel drame allait se passer. C'est pas dans des villes comme ça que ça doit se passer. On se croira en Irak, avec tous ces gravats et ces bâtiments qui menacent de s'effondrer encore.
Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Nathalie Chevance. Le bilan provisoire donc est de 6 victimes. Et je vous le disais, à l'instant, les recherches sont suspendues pour détruire deux nouveaux immeubles voisins des bâtiments effondrés. Donald Trump donne le change. Le président américain avait tweeté ce matin après l'annonce du résultat des élections de mi-mandat. Un immense succès, selon lui. On rappelle que les démocrates ont réussi à reconquérir la majorité à la Chambre des représentants. En revanche, les républicains conservent le contrôle du Sénat. Chaque camp tente depuis ce matin de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump sera donc désormais en situation de cohabitation. Il n'aura plus vraiment les coudées aussi franches qu'aujourd'hui. Et ce soir, Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Ce soir, Trump a pris la parole pour se féliciter.
Oui, il s'est envoyé des fleurs. C'est grâce à lui et à sa campagne, dit-il, que les Républicains ont gardé le Sénat. La réalité est beaucoup moins réjouissante pour le président américain. Vous l'avez dit, il va devoir gouverner avec des démocrates qui contrôlent la Chambre. Sans eux, impossible de passer la moindre loi. Et en plus, ils ont gagné, avec cette majorité, le pouvoir très puissant de lancer des enquêtes parlementaires, notamment sur les affaires de Trump, ses conflits d'intérêts et autres. Alors pour les 2 années à venir, le président américain a proposé un choix. Soit la guerre de tranchées, soit le rameau d'olivier. Écoutez.
Donc ils peuvent enquêter sur nous, mais nous on peut enquêter sur eux. Et ce sera sûrement bien pour moi politiquement parce que je suis meilleur qu'eux à ce jeu. Ou bien on peut travailler ensemble. Ça pourrait vraiment être une merveilleuse situation de travail bipartisan. On a beaucoup de choses en commun, sur les infrastructures par exemple, sur le système de santé. Il y a beaucoup de grandes choses qu'on peut faire ensemble.
Donald Trump veut montrer qu'il a la main. À l'écouter, il est très confiant. Ce qu'on a vu surtout, c'est un président agressif et nerveux lors de cette conférence de presse, assez extraordinaire, même pour des standards trumpiens. Il a insulté le journaliste de CNN qui s'est quasiment fait arracher son micro par une employée de la Maison Blanche. Il a traité de raciste une journaliste noire qui lui posait une question sur son nationalisme affiché. Il n'est jamais aussi menaçant que quand il se sent menacée. Les deux années qui viennent s'annoncent encore plus tendues à Washington.
Eh bien, merci beaucoup. On suivra ça grâce à vous, Xavier Yvon, puisque vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le président américain qui a par ailleurs affirmé qu'il n'était pas inquiet au sujet de l'enquête menée par le procureur spécial sur une possible collusion entre son équipe de campagne présidentielle en 2016 et la Russie. C'est un canular, dit-il. Il a également assuré qu'il ne mettrait pas fin à cette enquête qu'il qualifie depuis plusieurs mois de chasse aux sorcières. Et surprise, dans un tweet, il annonce ce soir le départ de son ministre de la Justice, Jeff Sessions, à qui il reprochait de s'être récusé dans cette délicate enquête. Voilà donc pour le dossier Trump. Au Pakistan, la chrétienne Asia Bibi a été libérée aujourd'hui, quelques jours après son acquittement. Elle avait été, vous le savez, condamnée à mort pour blasphème il y a 8 ans pour avoir bu l'eau d'un puits réservé en principe aux musulmans. Les islamistes ont tout fait ces derniers jours pour tenter d'empêcher sa libération. Alors que va-t-elle devenir maintenant? Elle aurait pris un avion pour une destination inconnue, d'après son avocat. La disparition ce soir à 86 ans du compositeur Francis Lai, c'est à lui que l'on doit notamment cette musique. La musique d'un homme et une femme composée donc par Francis Lai, qui est également l'auteur de Love Story, pour lequel il avait reçu un Oscar. Francis Lai qui avait aussi composé la chanson La Bicyclette, interprétée par Yves Montand. C'est un auteur nouveau, c'est un auteur jeune et c'est surtout un auteur qui parle de la France d'aujourd'hui. Des propos signés Bernard Pivot, le patron du Goncourt. Le livre Leurs enfants après eux a été récompensé aujourd'hui. C'est une histoire d'adolescent désœuvré en Lorraine dans les années 90 et c'est le deuxième roman de Nicolas Mathieu qui a passé 18 mois enfermé pour écrire ce livre et qui aujourd'hui a un peu la tête qui tourne de se retrouver ainsi sous le feu des projecteurs.
Mon impression, c'est la surprise, la joie. Et puis aussi, quand même, un immense vertige. On fait un pas dans le vide. C'est la première fois de ma vie que je suis pris dans un barnum pareil, quoi. Donc voilà, et on va essayer de vivre ça le mieux possible. Non, je suis vraiment ravi. Je suis ravi, on me parle beaucoup de moi, de ce que je ressens et tout ça, mais je suis vraiment content pour ce livre. Voilà, c'est un livre qui fait sens pour moi et qui, j'espère, le fera pour beaucoup de gens. C'est bien que cette histoire-là soit dite et qu'elle est maintenant, elle va être lue.
Nicolas Mathieu, il était au micro européen de Nicolas Caro. Et puis le prix Renaudot a lui été attribué à Valérie Manteau pour Le Sillon aux éditions Le Tripode. C'est un portrait d'un militant de la cause arménienne assassiné par un nationaliste turc. Et on retourne tout de suite à Lyon. Lyon face à Oppenheim, c'est du foot, c'est la Ligue des Champions. Ce soir, en direct, on fait un nouveau point avec vous, Pascal Auclair, et pour l'instant, tout va très bien pour les Lyonnais. Hein.
Ah oui, tout va très bien, Madame la Marquise, puisque l'Olympique Lyonnais mène toujours 2-0. Alors, c'est vrai que les Lyonnais ont été dominés en début de match, et puis petit à petit, ils ont d'abord défendu, puis ils ont réussi à ouvrir le score à la 19e minute, après une première tentative de Mendy repoussée par le poteau, une partie de billard dans la surface, deux parades successives du gardien allemand, et finalement une frappe victorieuse de Fekir. Ça, c'était donc la 19e minute. 10 minutes plus tard, c'est Ndombele qui se trouvait à point nommé pour doubler la mise sur un centre en retrait de Mendy et un tir dévié par un défenseur adverse. Bref, l'affaire se présente bien, d'autant que les Allemands évoluent depuis maintenant une bonne dizaine de minutes en infériorité numérique suite à l'expulsion de leur défenseur Adams. Bref, 2-0, la qualification est très proche désormais pour l'Olympique Lyonnais.
On y croit, et vous savez quoi, Pascal Auclair, on vous retrouvera avant 22h30 pour faire un nouveau point. Notez qu'après la déroute et l'élimination de Monaco hier soir, son président Dmitri Ribolovlev a été inculpé dans une affaire d'escroquerie qui l'oppose à un ancien marchand d'art. Et puis l'ex-bad boy qui devient éducateur, Nicolas Anelka, va prodiguer ses conseils aux jeunes attaquants du centre de formation de Lille. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Demain, Elena, ce sera une journée de transition entre deux perturbations pluvieuses.
Moins de pluie, moins de vent, mais plusieurs nuances de gris au lever du jour. Du gris souris sous les nuages et les dernières averses sur les frontières de l'Est. Sur le nord de la Loire, le Poitou-Charentes et la Gironde. Là, ce sera un réveil gris-brouillard, parfois tenace. Ailleurs, ce sera du gris-blanc, sauf sur les bords de Manche. Là, on aura un ciel presque bleu dès le petit déjeuner. L'après-midi sera plus clair sur le nord de la Loire, alternance de nuages et d'éclaircies. Ciel toujours bien bleu entre la Côte d'Opale et d'Albâtre. Pareil sur la Gironde, sur les Landes et sur le Pays Basque. Alors sur les autres régions du sud de la Loire, le ciel sera voilé, du genre laiteux. Toujours plus nuageux entre le Languedoc, les Alpes-Maritimes et la Corse, l'ouest de l'île d'ailleurs, avec quelques averses. Sur le Finistère, le ciel sera de plus en plus nuageux. En fin de journée, le vent se renforcera à l'approche d'une perturbation qui nous concernera vendredi. Les températures baissent. Après cet intermède de douceur dans le nord, on revient à des températures de saison. 5 à 8 degrés au lever du jour, plus doux près de la Méditerranée avec 10 à 13 degrés. Et puis demain après-midi, on attend 10 degrés à Langres, 12 à Paris et Strasbourg, 13 à Lille comme au Havre, à Bourges, Lyon et Besançon, 15 à Bordeaux et Toulouse, 17 pour Biarritz et Nice, 19 à Marseille, 20 pour Ajaccio.
La météo signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamo de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval. A tout de suite sur Europe 1.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h16 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse.
La Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises, vous présente Top à Wall Street. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Bonsoir Didier Hamo.
Bonsoir Isabelle.
Rédacteur en chef de boursier.com. Alors Wall Street remonte nettement ce soir après le résultat des élections de mi-mandat aux États-Unis.
Coup de chapeau des marchés, oui, les marchés ont salué ce qu'ils considèrent comme un rééquilibrage politique aux États-Unis. En tous les cas, on y voit plus clair maintenant et le Dow Jones gagne 2,13%, forte hausse. Très net rebond, 26 180 points, même chose et mieux même pour le Nasdaq, plus 2,64%, 7 570 points. Il faut se souvenir que ça avait quand même pas mal baissé ces dernières semaines et donc ça remonte assez nettement avec des valeurs exportatrices qui se reprennent, des valeurs de technologie en particulier qui sont très entourées ce soir. Apple, plus 3%, 209,95$. Amazon bondit littéralement de plus de 7%. Microsoft, plus 4%. Cisco, plus 3%. Oracle, plus 2%. IBM, plus 1,4%. Donc c'est un tir groupé du côté des technologiques. Les banques aussi remontent. JP Morgan, plus 1,7%. Morgan Stanley, plus 2%. Goldman Sachs, plus 1,3%. Il n'y a pas vraiment d'ombre au tableau, à part peut-être le pétrole, qui revient encore en arrière à 61,70$. Mais ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Au plus bas depuis le mois de mars, le baril WTI, donc 61,70$ en un mois, il a perdu 19%. Alors que la production de l'Arabie Saoudite s'annonce plus généreuse que prévu et les sanctions touchant l'Iran moins sévères. L'euro sur les devises grimpe ce soir à 1,1455. Ça remonte donc pour l'euro face au billet vert.
La bourse de Paris, elle aussi, a fortement progressé, hein, Didier, en clôture.
Une hausse nette d'1,24% sur le CAC 40, 5 137 points en profitant du regain de confiance venu des États-Unis. Donc 5 137 points ce soir. Quelques grandes valeurs en profitent nettement pour remonter, comme Engie, plus 3,5%. Après avoir confirmé ses perspectives 2018, Veolia aussi plus 2,8%. Le résultat net courant grimpe de 20% chez Veolia. Et puis Eiffage, là aussi le groupe de construction a confirmé ses prévisions 2018, plus 2,4%. Même chose du côté de l'assureur AXA, plus 1% ce soir.
Donc tout va bien apparemment, pas sauf mieux. Exception du jour, vous l'évoquiez, le secteur pétrolier qui est resté en retrait.
Logique, oui, avec le baril de brut qui revient donc au plus bas depuis le mois de mars, autour des 62 dollars le baril WTI. Donc CGG a perdu 7,7%, le groupe parapétrolier a annoncé son nouveau plan stratégique qui n'a pas vraiment convaincu à première vue. On a aussi Technip qui recule d'1%, 22,85€. Vallourec résiste autour de l'équilibre. Ailleurs, sur les autres places financières, Francfort remonte de 0,8%, Bruxelles gagne 1,8%, Madrid carrément 2% de mieux, Milan plus 1,4% et donc le CAC 40 en hausse d'1,24%, 5137 points.
Merci pour ce tour d'horizon très détaillé, Didier Hamo de boursier.com. Je crois que vous nous disiez qu'Amazon remonte. Eh bien, ça tombe bien puisque Emmanuel Duteil reçoit ce soir son directeur général France.
Frédéric Duval, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Duteil.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général d'Amazon en France. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que là, vous allez dans un instant nous révéler une évolution du côté du site d'Amazon puisque vous avez décidé de lancer une nouvelle boutique de producteurs, une boutique qui est destinée aux entreprises agroalimentaires. On va y retrouver, je crois, 2000 produits en provenance des régions françaises. C'est ça l'idée ?
Absolument. Dans le cadre des états généraux de l'alimentation que Monsieur Macron a lancé, un sujet est ressorti, c'est la juste reconnaissance des savoir-faire des producteurs français, la juste rémunération de ces producteurs français. Et donc dans ce cadre-là, on lance effectivement la boutique des producteurs qui va permettre à tous les producteurs de France de vendre directement, circuit court, leurs produits.
Elle est ouverte à qui? Là, peut-être que certains producteurs sont en train
de
découvrir ce
disque. Tous les producteurs de France, peuvent aujourd'hui se joindre à cette initiative, venir sur la boutique, bénéficier d'une exposition plus large et plus acérée sur le site amazon.fr, et puis effectivement mettre en ligne leurs produits pour pouvoir vendre bien au-delà de leur zone de chalandise traditionnelle, puisqu'ils peuvent toucher toute la France, voire toute l'Europe s'ils ont envie.
Quand on dit producteur français, on est sur de l'agroalimentaire, mais ça peut être plus large que ça.
Oui, on est effectivement principalement sur de l'alimentaire, mais on pourrait imaginer que des producteurs de chaussures, des producteurs de pièces en bois, des producteurs de ce que l'on veut, puissent se joindre à cette boutique.
Là, on va déjà en trouver 2000. Vous les avez sélectionnés comment, ceux-là? Puisque ça s'ouvre là ce soir, vous l'annoncez sur Europe 1.
Effectivement, on démarre avec 2000. On a recruté des dizaines de producteurs aujourd'hui en France. On est très contents de les accueillir.
Vous espérez en avoir combien à terme?
Pas de spéculation sur le futur, le plus possible.
Combien ça leur coûte, eux, à ces producteurs, d'être distribués comme ça sur Amazon?
Ça leur coûte peu. Avant de revenir sur le coût, je voudrais dire, aujourd'hui, peu d'entreprises françaises, de TPE, PME françaises, vendent en ligne.
Et 22%, je crois.
15%. Nous mettons 13e rang européen. Et donc, les entreprises françaises, aujourd'hui, sont beaucoup moins digitalisées, je parle des TPE, PME, que leurs homologues espagnoles, italiennes, anglaises ou allemandes. Et vraiment,
notre ambition, c'est
vraiment faciliter, enlever les barrières, qu'elles soient financières, technologiques, pour que ces producteurs puissent vendre sur Internet comme elles le souhaitent.
Combien ça leur coûte alors?
Ça leur coûte environ 15% de rémunération, ce qui est vraiment...
Une petite cotisation par mois, 39 euros.
Plus 39 euros, mais alors cette cotisation, justement, pendant cette offre de lancement, on va l'offrir pendant 3 mois pour que chaque producteur puisse se faire un avis sur cette boutique des producteurs.
Vous avez déjà un petit recul, puisque vous avez ce qu'on appelle une marketplace sur laquelle on trouve déjà aujourd'hui des toutes petites entreprises. Est-ce que vous êtes capable de nous dire de combien de pourcents ces entreprises arrivent à doper leurs ventes quand elles arrivent sur une plateforme comme Amazon?
Alors, la totalité en général des gens qui viennent en ligne dopent leurs ventes. On vient de faire une analyse aujourd'hui avec un institut indépendant. 68% des entreprises françaises considèrent que la mise en ligne de leurs produits va doper leurs ventes. En revanche, seulement 18% d'entre elles procèdent à cette mise en ligne de leurs produits. C'est perçu comme quelque chose de coûteux, c'est perçu comme quelque chose de facile. Et je vous invite demain à venir à l'Amazon Academy qu'on aura dans Paris pour vérifier par vous-même que 1, c'est très facile, 2, c'est peu coûteux, et 3, ça peut rapporter gros.
Vous pouvez aussi gérer leur stock quand c'est ça?
Absolument. On le fait, on a 2 options. Quand la vente est réalisée par ce producteur qui a fixé son prix, qui a fixé sa campagne promotionnelle s'il en a besoin, qui a fixé la quantité de stock lui-même qu'il veut vendre, une fois qu'il a fixé tout ça lui-même, et il est vraiment maître de sa politique commerciale, 2 solutions s'offrent à lui quand la vente se fait, ou bien il expédie lui-même, ou bien il a confié ce travail aux équipes Amazon et on expédie pour lui.
On parlait de produits frais, de producteurs. Monoprix s'est associé à vous il y a de cela maintenant quelques semaines. Le patron de Monoprix était venu ici le soir même du lancement et dit « c'est un carton total, ça l'est toujours ».
Oui, on est très contents, effectivement.
Mais c'est un carton.
Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça marche mieux que ce qu'on pensait au départ.
Et du coup, vous allez l'élargir, ouvrir d'autres villes. Ce qui était venu aussi nous dire, pour le moment, c'est Paris. Et j'espère bien que grâce à Amazon, j'arriverai à aller dans d'autres villes.
On va pas spéculer sur le futur. Pour l'instant, on essaye de faire les choses bien, celles qu'on fait aujourd'hui. On est très contents que ça plaise à nos clients. Si on peut élargir, on élargira.
Vous avez lancé votre campagne de recrutement pour les fêtes de Noël. 7500 intérimaires vont être recrutés. Vous en êtes où?
On est en train de monter en cadence, je dirais. On est en train de recruter. Je ne connais pas les chiffres exacts sur l'état des 7500 recrutements temporaires qu'on est en train de réaliser. Mais ça me rappelle effectivement qu'aujourd'hui, à la fin de l'année, nous aurons 7500 CDI en France travaillant pour Amazon, auxquels s'ajoutent les temporaires dont vous parlez, auxquels s'ajoutent les 10 000 emplois indirects créés par la marketplace. On a vraiment aujourd'hui une entreprise Amazon qui contribue très positivement à l'économie française.
Et qui paye ses impôts?
Et qui paye ses impôts effectivement en France, comme vous le dites. Oui, absolument.
Vous pouvez nous assurer. Je sais qu'on vous a posé la question mille fois, mais vous pouvez nous assurer que vous payez tous les impôts que vous devez à l'État français.
Je vous assure que nous payons tous les impôts que nous devons à l'État français.
Est-ce que malgré tout, vous avez poussé un ouf de soulagement quand vous avez lu le journal Les Échos ce matin, voyant que la taxe sur les GAFA, donc le 1DA, c'est Amazon, va être repoussée. A priori, on ne verra peut-être jamais le jour. C'est la taxe que voulait notamment Bruno Le Maire.
Je ne vais pas commenter des choses qui ne sont pas réalisées aujourd'hui.
Un ouf de soulagement quand même.
J'en sais rien, je commente rien.
Vous commentez rien. En revanche, on avait révélé sur Europe 1 que vous alliez lancer un gros entrepôt à Brétigny en Essonne. J'ai lu dans Les Échos là aussi récemment que finalement ce serait un peu moins gros que prévu. Il devait y avoir deux entrepôts, ce serait un entrepôt.
Aujourd'hui,
pourquoi
on a effectivement un entrepôt qui va démarrer à Brétigny-sur-Orge en année 2019. C'est un gros entrepôt qui va employer beaucoup de personnel. On doit déjà réaliser cela, on verra ensuite si on doit développer.
Mais ce sera un peu plus petit que prévu dans un premier temps. Est-ce que ça veut dire que vous avez moins d'ambition sur la France ou c'est juste que c'était peut-être un peu trop gros pour ce dont vous aviez besoin pour le moment?
Non, vraiment, le projet tel qu'il est aujourd'hui est déjà extrêmement ambitieux et on va aller au bout de ce projet et puis on verra après.
Amazon réfléchit à lancer plusieurs milliers de magasins sans caisse d'ici à 2021. Ça pourrait arriver en France aussi?
Je ne vais pas spéculer à nouveau sur le futur. J'adorerais que ça arrive effectivement en France.
Pourquoi il y a tant le culte du secret comme ça chez Amazon?
Mais il y a un culte du secret, il n'y a pas de culte du secret. Regardez ce qui a été fait depuis 2010. On a investi en France 2 milliards d'euros, on a recruté 7500 CDI, comme je le disais. On est maintenant présent sur 20 sites, présent dans 9 régions sur 13 en France. Ben voilà, ce n'est pas du secret, c'est du physique.
Alors typiquement, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on commence à faire nos achats de Noël. Oui. La tendance vous paraît bonne?
La tendance est très bonne. Les gens viennent effectivement sur le site, sont en train de choisir, de regarder les différents produits, puis ils vont se décider. Et oui, absolument, on est en train de préparer une grosse fête du commerce qui est Black Friday, qui arrivera à la fin du mois.
Chez vous comme chez les autres, le temps fort à ne pas rater, c'est vraiment le Noël maintenant, c'est quelques journées du Black Friday.
C'est un moment important effectivement pour tous les Français.
Et ben merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. C'était Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon en France. Amazon qui lance donc une nouvelle boutique directement sur son site à destination des producteurs français. À demain, 22h20.
Et merci beaucoup à vous Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrites ont choisi de mettre en avant.
La Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises, vous présente les unes du lendemain. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Et voici ce que vous découvrirez donc demain matin dans vos quotidiens. Et on parle bien sûr beaucoup, beaucoup des élections américaines. On en parle notamment dans Les Échos avec l'édito de Guillaume Maujean. Qui a gagné la bataille, s'interroge-t-il? Donald Trump, qui voit sa majorité républicaine confortée au Sénat, ou bien les démocrates qui reconquièrent la Chambre des représentants et qui promettent au président américain 2 années de rude combat politique? Le verdict des midterms n'a pas clairement désigné de vainqueur, explique Guillaume Maujean. Et les spécialistes n'ont pas fini de débattre des conséquences de ces élections. Certes, une fois le nouveau Congrès entré en fonction, Trump ne pourra plus faire adopter ses lois sans transiger avec les démocrates, qui ont désormais un droit de veto sur le budget de la nation et qui ne manqueront pas d'enterrer son projet de mur à la frontière mexicaine. Mais le locataire de la Maison-Blanche a aussi marqué des points et renforcé sa stature de chef incontestable. Ceux qui croyaient, y compris de ce côté-ci de l'Atlantique, que le populisme à la sauce Trump ne serait qu'une parenthèse, en sont pour leurs frais. Trump en position de force pour 2020, c'est le titre du Figaro. Le président américain a passé l'épreuve des midterms et sa capacité à gouverner est entamée par son revers au Congrès. Mais la bonne résistance des républicains lui permet, d'après le Figaro, d'espérer un second mandat. Face à Trump, les conquérantes, le visage d'une femme, tout sourire à la une de Libération demain. Les femmes qui ont permis aux démocrates de remporter ces élections de mi-mandat. Rien qu'à la Chambre des représentants, elles seront désormais 95 assiégées sur un total de 435. C'est historique. Le journal L'Opinion revient quant à lui sur la nouvelle affaire qui, chez nous en France, empoisonne le président de la République. Avec ce titre, et Emmanuel Macron marcha sur une mine nommée Pétain. Une affaire sur laquelle s'attarde Bernard Stéphan dans la montagne. La vie d'un homme est-elle divisible? C'est la question qu'induit la déclaration d'Emmanuel Macron à propos du maréchal Pétain. Certes, il fut le vainqueur de Verdun, mais à partir de 1940, la gloire du soldat a été entachée par les crimes de l'État français qu'il dirigeait. Ainsi, l'héroïsme d'un d'un chef de guerre ne peut pas effacer ses ignominies. L'unité d'un homme ne se découpe pas en tranches. Emmanuel Macron est-il allé trop vite pour trébucher ainsi? Bien sûr, il emploie les mêmes arguments que ceux du général de Gaulle, évoquant en 1966 à Douaumont la gloire du chef militaire dans la Grande Guerre. Mais seul de Gaulle pouvait faire cela. La polémique était prévisible. Le sujet Pétain est en France un chiffon rouge. On se demande pourquoi Emmanuel Macron l'a ainsi agité avec une telle légèreté. Voilà pour ce petit tour d'horizon des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et on va faire un nouveau détour tout de suite par Lyon, puisque vous le savez, l'OL joue en ce moment face à Hoffenheim en Ligue des Champions. Pascal Auclair, les Allemands qui s'accrochent, hein, qui reviennent.
Eh oui, on pensait que le suspense s'était tué. L'Olympique Lyonnais menait 2-0, jouait en supériorité numérique. Seulement voilà, les Allemands ont réduit le score. Une frappe d'une vingtaine de mètres de Kramaric. Et finalement, il n'y a plus que 2-1. Bref, l'Olympique Lyonnais n'est pas encore complètement tiré d'affaire et la qualification n'est pas encore dans la poche. 2-1 donc, et il reste un gros quart d'heure à jouer.
Et on a envie d'y croire. Merci beaucoup Pascal Auclair. Passez une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1.